Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30,
avec Amandine Bégaud.
Et bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30, 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinion avec vous, les auditeurs. Vous avez la parole, vous le savez, dès 13h, comme chaque jour, au 32-10, à la une, cette deuxième dose de rappel ouverte aux plus de 60 ans. De violents incidents hier soir à Marseille entre supporters de l'OM et les Grecs du PAOK Salonique. Et puis l'ambassadeur de Russie en France, à nouveau convoqué au Quai d'Orsay. Deuxième convocation en 2 jours. Juste après le journal, on échange, on décrypte, on débat et à 3 jours du premier tour de la présidentielle, on s'arrêtera sur ces indécis. 35% des électeurs certains d'aller voter mais qui ne savent toujours pas pour qui. Et puis à 12h50, un jour, une proposition. RTL Midi continue de passer au crible les programmes des candidats. Aujourd'hui, on ouvre le chapitre justice. Notre question du jour sur RTL.fr. Karim Benzema est-il le meilleur attaquant du monde? Question, bien sûr, après ce triplé magnifique hier soir face à Chelsea. Eh bien, vous dites non à 57%. Il n'est pas, d'après vous, le meilleur attaquant du monde. Notre météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour, Peggy.
Bonjour, Amandine.
Comme prévu, c'est bien, bien agité.
Oui, avec une succession de passages pluvieux et venteux, un fort cumul de précipitations, notamment sur les reliefs de l'Est. D'ailleurs, la Savoie est en vigilance orange avalanche. Des pluies soutenues également entre le centre et le nord-est. Et sur le centre-ouest, le temps est plus variable au nord, entre les Hauts-de-France et la Bretagne. Mais ça souffle sur l'ensemble du pays, ça souffle fort. Et l'extrême sud reste à l'écart du mauvais temps, même si les nuages sont plus nombreux. Côté température, de 12 à 15 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 22 au sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Elle était jusqu'ici réservée aux plus de 80 ans. Dès demain, les plus de 60 ans pourront donc recevoir à leur tour une deuxième dose de rappel contre le Covid. Olivier Véran l'a annoncé ce matin sur RTL.
Une deuxième vaccination de rappel, quand on a 60 ans et plus, réduit de 80% le risque d'hospitalisation, de réanimation et de décès. Même si ce risque est moins élevé aujourd'hui qu'il l'était avec les variants précédents et lorsqu'il n'y avait pas de couverture vaccinale, il y a un risque résiduel. On peut le réduire par 4. Donc on le propose et ça répond aussi à une demande d'un certain nombre de nos concitoyens qui, bien qu'il n'ait pas 80 ans, se disent « le virus circule beaucoup en ce moment, je serais quand même plus rassuré si je pouvais avoir un rappel ».
Olivier Véran, le ministre de la Santé sur RTL ce matin avec Alba Ventura et Yves Calvi. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
Ce rappel, on le précise, il n'est pas obligatoire.
C'est évidemment sur la base du volontariat, comme pour les doses précédentes. Il s'agit vraiment de donner la possibilité aux plus de 60 ans qu'ils aient ou pas de comorbidité et qui ont reçu leur troisième dose il y a plus de 6 mois, de rebooster leur système immunitaire. Selon les dernières études, la protection contre les formes graves diminue un peu, 6 mois après le premier rappel chez les plus âgés. Et cette quatrième dose va aussi permettre de renforcer la protection contre l'infection et la transmission qui disparaissent quasiment après 3 mois.
Donc plus de 6 mois après la troisième dose. Mais alors pour les plus de 60 ans qui ont eu le Covid après leur troisième dose, comment ça se passe? Ça
alors,
se complique un peu, accrochez-vous.
Il y a deux cas de figure. Si vous avez été contaminé moins de 3 mois après votre rappel, vous attendez 6 mois après l'infection pour faire cette quatrième dose. En revanche, si vous avez été infecté plus de 3 mois après votre rappel, pas besoin de faire cette quatrième dose. Votre infection est considérée comme une dose de rappel naturelle.
Eh bien, c'est limpide. Merci à vous, Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. Concernant la circulation du virus, le ministre confirme le pic du rebond épidémique a bien été atteint depuis 5 jours. Le nombre de nouvelles contaminations baisse chaque jour de 5%. Dans ce contexte, voilà une conséquence très concrète de la fin du port du masque obligatoire. Peut-être d'ailleurs le premier signe d'un retour à la vie normale. Les ventes de rouge à lèvres repartent à la hausse, plus 35% dans les parfumeries. Vous confirmez, Denis Grangeau ?
Oui, dans sa parfumerie, Aude ouvre un carton qui contient une multitude de tubes de rouge à lèvres.
On s'attendait quand même à avoir un gros engouement suite à la fin du port du masque.
Et il suffit de croiser des clientes pour s'apercevoir et ressentir que le moral est au beau fixe.
Oui, on prend plus de plaisir, du moins, on reprend plaisir.
Pour certaines, la fin de l'obligation de porter le masque n'est pas vraiment une révolution.
J'en mettais toujours. J'ai toujours gardé cette habitude.
Si vous avez le masque, on ne vous voit pas que vous avez du rouge à lèvres.
Ouais, mais moi je le vois, moi je le sais. Hein, quand je l'enlève dans ma voiture, moi je le sais.
Ouais, mais nous on ne sait pas.
Ah ouais, mais moi oui.
Quant aux tendances des rouges à lèvres de ce printemps 2022,
on est quand même sur quelque chose de nude, comme si on n'était pas maquillé, même si au final on est ultra maquillé en fait dessous.
Alors j'ai pas compris, nude c'est quoi nude?
Nude c'est quelque chose de discret en fait. Par exemple, vous voyez là, j'ai mis un rouge à lèvres, il était ultra nude.
Là vous avez un rouge à lèvres là?
Ouais, j'en ai mis un. Et il est nude quoi.
Voilà Amandine, je ne sais pas si vous êtes du style nude, en tous les cas vous connaissez bien sûr Coco Chanel qui avait eu cette formule, si tu es triste, si tu as le cœur brisé, maquille-toi, fais-toi belle, mets un peu plus de rouge à lèvres et à l'attaque. Les hommes détestent les femmes qui pleurent.
Et voilà pour la leçon. Merci à vous, Denis Grangeau, à Bordeaux pour RTL. Nude, c'est naturel, beige, qui ne se voit pas. La présidentielle, à présent, il y a 3 jours du premier tour, Marine Le Pen était ce matin l'invitée d'RTL, la candidate du Rassemblement National qui n'exclut pas de gouverner si elle est élue avec des gens de gauche.
Bien entendu, j'ai une liste de gens et je pense que mon problème sera de choisir, beaucoup plus que de trouver. Je pourrais très bien avoir des gens qui viennent, par exemple, de la gauche chevènementiste, c'est-à-dire d'une gauche souverainiste, d'une gauche qui défend la réindustrialisation. Il y a beaucoup de gens à gauche qui sont attachés à la laïcité, ça tombe bien, c'est un sujet fondamental pour moi, qui sont attachés à l'école et qui sont très opposés à la manière dont Emmanuel Macron envisage de détruire de manière consciencieuse l'école. Il y a beaucoup de gens attachés à la haute fonction publique quand Emmanuel Macron est en train d'effondrer l'État. Ces gens-là, effectivement, pourraient également participer à mon gouvernement.
Marine Le Pen sur RTL ce matin. Demain, c'est Emmanuel Macron qui sera l'invité d'Alba Ventura et de François Langlais. Rendez-vous dès 7h35. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer dans votre bureau de vote dimanche pour cause de vacances ou autre, sachez-le, il est encore temps de faire une procuration. Ne tardez pas trop quand même. Camille Chazet, la porte-parole du ministère de l'Intérieur.
Alors techniquement et même légalement, j'allais dire, on a jusqu'au dernier moment pour établir sa demande de procuration. Dans la réalité, il faut le faire le plus vite possible. Il y a 2 façons de le faire. Une sur Internet avec un téléservice qui est nouveau cette année, qui s'appelle Ma Procuration, qui est accessible sur le site maprocuration.gouv.fr. Après, il y a une autre démarche qui est avec un formulaire papier, etc. Mais il y a toujours obligatoirement ce passage au commissariat de police ou en gendarmerie. Il faut à ce moment-là présenter sa carte nationale d'identité.
Et des propos recueillis pour RTL par Tom Lefebvre. 1 million de procurations ont déjà été déposées, 250 000 pour la seule journée d'hier. On est toutefois encore loin des 3 millions de 2017. Dans l'actualité également, ce drame à Villeurbanne, près de Lyon, une adolescente de 13 ans a été retrouvée morte hier dans un appartement, celui de l'un de ses voisins. Un homme de 74 ans qui s'est lui suicidé, Frédéric Perruche.
Oui, c'est dans son appartement au 3e étage, en face de celui de l'adolescence, juste en face, dans cet immeuble tranquille de Villeurbanne, que les policiers ont retrouvé le corps de la collégienne, touché de plusieurs coups de couteau aux mains et au cou. Ils ont tenté de la réanimer peu avant 22h, mais sans succès. Alertée par la maman, inquiète de ne pouvoir joindre sa fille au téléphone, la police avait immédiatement ouvert une enquête hier en fin d'après-midi pour disparition inquiétante, et donc retrouvé sa piste quelques heures plus tard et son corps dans l'appartement de cet homme de 74 ans. Fuite depuis hier, principal suspect, la géolocalisation de son portable a permis de le retrouver dans une forêt à 20 km de Lyon ce matin. Mort, il se serait suicidé avec une arme à feu. La police judiciaire est chargée de l'enquête pour tenter de comprendre les motivations et les circonstances de ce crime sordide qui a sidéré les quelques habitants de ce petit immeuble.
Et Frédéric Perruche, le correspondant de RTL à Lyon, à Marseille à présent, c'est violents incidents hier soir, des incidents entre supporters de l'OM et les Grecs du PAOK Salonique à la veille du match de Ligue Europa Conférence prévu ce soir. La police a dû s'interposer à de très très nombreuses reprises, Étienne Baudu.
Oui, les premiers affrontements ont lieu vers après 20h. 150 supporters marseillais apprennent que des supporters grecs logent dans au moins 2 hôtels du centre-ville. Ils se rendent alors à pied au plus proche. Depuis le Vieux-Port, les policiers qui veillaient au grain arrivent les premiers et s'interposent, interdisant aux Grecs qui voulaient en découdre de sortir de l'hôtel. Sur des vidéos, on voit même les CRS lancer des bombes lacrymogènes dans le hall de l'établissement. On les entend. Ensuite, ce sera le jeu du chat et de la souris dans les rues du centre-ville. Les Grecs, ayant pu sortir de leur hôtel, vont chercher toute la soirée à affronter les Marseillais qui n'en demandent pas moins. Et les forces de l'ordre vont passer leur temps à tenter d'empêcher ces affrontements, y compris sur le Vieux-Port, jusqu'à 3h du matin. Bilan, 1 supporter marseillais interpellé, 6 blessés légers, dont 3 policiers. Thomas habite en face de l'hôtel où ont eu lieu les premiers affrontements. Il est un peu amer.
Quand j'étais plus petit, ils se battaient carrément au stade. Maintenant, ils se battent avant en ville. Le foot, c'est plus ce que c'était. Ni les supporters d'ailleurs.
Et il semblerait que le club grec n'ait pas respecté l'accord conclu avec les autorités françaises. Les groupes de supporters constitués devaient loger à l'extérieur de Marseille pour éviter justement ce genre d'incident.
Étienne Baudu en direct de Marseille pour RTL. Et puis vous vous souvenez sans doute de cet incendie qui avait fait 8 morts, dont 2 enfants à Saint-Laurent-de-Salanque, c'est dans les Pyrénées-Orientales, c'était au tout début de l'année. Eh bien on apprend aujourd'hui que 3 personnes ont été interpellées, 3 hommes placés en garde à vue pour dégradation par incendie ayant entraîné la mort et des blessures. La guerre en Ukraine à présent et le chef de la diplomatie ukrainienne lance un nouvel appel à l'OTAN.
It's weapons, weapons and weapons.
Des armes, des armes, des armes, a-t-il marbelé. C'était lors d'une réunion ce matin justement avec l'OTAN à Bruxelles.
Plus nous aurons d'armes, plus vite arrivera le jour de la victoire. Plus nombreuses seront les vies épargnées, plus nombreux seront les villages échappant à la destruction et il n'y aura plus jamais de Boutcha. Aujourd'hui, les armes peuvent contribuer à la paix.
L'appel à l'OTAN du ministre des Affaires étrangères ukrainien ici en France, Jean-Yves Le Drian, convoque lui l'ambassadeur de Russie. Deuxième convocation en 48 heures. Pourquoi, Sophie Jousselin ?
Eh bien là, pour une photo publiée par l'ambassade de Russie en France sur son compte Twitter et surtout pour le commentaire, la légende qui l'accompagne. Il s'agit d'une photo de Boutcha, la ville où l'armée russe est accusée d'avoir massacré des civils. Ce cliché a été pris hier. On y voit un char détruit, une chaussée défoncée, un petit char roux abandonné, des journalistes et des photographes. Et donc, sous cette photo, l'ambassade de Russie en France a écrit « Plateau de tournage, ville de Boutcha », insinuant qu'il s'agit d'une mise en scène des autorités ukrainiennes. Ce tweet a provoqué un tollé sur le réseau social. D'ailleurs, Twitter, depuis, l'a supprimé. Outre la convocation de mardi dernier pour l'annonce du renvoi des diplomates russes de France, l'ambassadeur russe Alexei Mishkov avait déjà dû venir s'expliquer au Quai d'Orsay le 25 mars en raison de la publication sur le compte Twitter de l'ambassade d'une caricature représentant l'Europe sous la forme d'une grosse langue léchant le postérieur de l'oncle Sam, donc des États-Unis.
Explication signée Sophie Jousselin. Merci à vous. Du foot à présent et son visage fait ce matin la une de toute la presse sportive en Europe. Karim Benzema, 3 buts hier soir face à Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le roi d'Europe, titre le quotidien espagnol AS. Bonjour Christian Olivier.
Bonjour.
Alors certains disent même le meilleur attaquant du monde. Je croyais que c'était Mbappé.
Alors autrement dit, vous êtes en train de me demander qui est le plus fort, n'est-ce
pas ? Oui, c'est ça.
Vous voulez qu'on se fâche avec les auditeurs
non.
de RTL ? Ça frôle le sadisme. En revanche, posez la question suivante. Êtes-vous Benzema ou plutôt Mbappé ? Pourquoi pas ? Car là, c'est une question de goût. Alors je m'avance. Benzema a actuellement un avantage sur Mbappé. Il a 10 ans de plus. Une autre carrière et un palmarès. 4 Ligues des Champions, 3 fois champion d'Espagne, 4 fois champion avec Lyon, pour ne prendre que ça. Mbappé, une fois champion de France avec Monaco, 3 fois avec le PSG, mais lui, il est champion du monde, pour ne prendre que ça également. Là où l'âge devient un avantage pour Mbappé, c'est qu'il a tout le temps de garnir sa vitrine de trophées. Et puis, nous ne sommes pas dans RTL Foot, où on fait le match le week-end sur RTL, mais il faut bien ici, à l'heure du déjeuner, parler des spécificités techniques de chacun. Benzema est un caméléon, il va partout. Il est buteur, passeur. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Il crée du mouvement pour les autres, etc. Mbappé, lui, est un joyau déjà iconique. Turbo, finisseur, buteur également. Puis finalement, Amandine, notre question est agaçante. Pourquoi les opposer ? Pourquoi les comparer ? Autant en profiter puisque le foot français et les Bleus disposent des 2 meilleurs joueurs du monde.
Bon, Christian, j'ai bien compris. Je ne vais pas vous demander de voter entre Benzema et Mbappé. Vous savez pour qui vous allez voter dimanche ? Sans nous dire qui, bien sûr, mais
bien
vous
sûr,
savez.
Bien sûr.
Bon, parce que figurez-vous qu'il y a 35% des gens qui savent qu'ils iront voter, mais ils ne savent pas encore pour qui.
Je n'en fais pas partie.
Ce sont les indécis, justement. Qui sont-ils ? On en parle dans un tout petit instant sur RTL. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes.
RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Je ne suis pas encore très très décidé, voire même pas du tout décidé.
Je ne connais pas encore bien tous les programmes, mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu.
Je me sens concernée, mais pas impliquée. Je m'intéresserai au programme des candidats, je pense, le samedi.
Quand j'aurai les professions de foi, je vais regarder ça de plus près.
Oui, c'est la première fois que je suis indécise.
Ben, on n'a pas vraiment eu de débat, en fait.
J'hésite entre voter utile et voter très utile, donc c'est un peu compliqué, quoi.
Je prendrai ma décision finale vraiment au moment d'y aller, quoi.
Concernée, mais pas décidée, tous ces électeurs sont ce qu'on appelle des indécis. Comme 35% des électeurs sûrs d'aller voter dimanche, ils ne savent pas encore vraiment pour qui. 35%, ça paraît énorme. Alors qui sont-ils ? Sont-ils plus nombreux que lors des élections précédentes ? Et surtout, peuvent-ils faire basculer ce scrutin ? C'est le premier débat de RTL Midi avec nous, William Galibert du service politique de RTL. Bonjour William. Et Benjamin Morel, politologue. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. William, d'abord une petite précision, indécis, ce n'est pas abstentionniste.
Ça veut dire je vais y aller, oui, je vais me déplacer dimanche, je vais prendre ma carte d'identité, ma carte d'électeur, je sais où je vais. Par contre, je ne sais pas ce que je vais faire une fois que je suis dans l'isoloir.
L'abstentionniste, c'est celui qui a décidé
après, on peut être
de
aussi
ne pas y aller.
Indécis sur le fait d'y aller,
ou pas.
Mais ça, c'est une autre histoire.
Bon. Selon notre dernier baromètre BVA pour RTL et Orange, ces indécis étaient donc la semaine dernière, vendredi dernier, 35%. Ça représente combien de personnes, William, ça ?
À la louche, c'est environ 15 millions d'électeurs. Ça, c'était il y a une semaine. On va dire que cette part d'indécis, elle diminue au fil des jours, au fil du premier tour qui se rapproche. 15 millions, la personne, le candidat ou la candidate en tête du premier tour dimanche soir, elle n'aura pas 15 millions de voix. Elle en sera même très loin. Donc, effectivement,
c'est le premier parti de France, on pourrait dire.
Enfin... Oui, quasiment. Vous additionnez les abstentionnistes et les indécis, vous avez un stock de voix. Et donc, c'est 15 millions de personnes, ben forcément, ils peuvent faire basculer les choses d'un côté ou de l'autre.
C'est aussi votre sentiment, Benjamin Morel, ces indécis, c'est ça la clé de l'élection ?
C'est l'une des clés. On a deux clés et deux facteurs d'incertitude. Le premier, c'est l'abstention. C'est qu'on a du mal à l'évaluer. On sait qu'elle peut jouer plus pour certains candidats que pour d'autres. Et le deuxième élément, en effet, ce sont ces indécis. Ces indécis dont il faut voir qu'en réalité, ils sont l'électorat mouvant d'une présidentielle. C'est eux qui font les dynamiques. C'est eux qui ne sont pas sûrs, justement, de leur vote et qui, donc, ont la tendance de voter utile, enrichissent des dynamiques ou, au contraire, les réfrènent. Donc, il peut se passer beaucoup de choses si, en effet, parmi ces indécis, vous avez des choix de dernière minute qui ne sont pas tout à fait ceux qui sont aujourd'hui attendus par les sondeurs. On sait qu'on a plusieurs pôles d'indécision. Hein. C'est notamment le cas de l'électorat de gauche hors Mélenchon, qui hésite entre les différents candidats de gauche et Jean-Luc Mélenchon. Qu'on peut avoir une partie d'indécis également à la droite de la droite qui peuvent enrichir soit Emmanuel Macron, soit Valérie Pécresse, ou soit Marine Le Pen. On sait qu'on a une vraie porosité, par exemple, entre votre Pécresse et votre Macron. Donc tout ça peut, au bout du compte, profondément changer la donne et peut donner des résultats du premier tour qui sont peut-être pas tout à fait ceux attendus, sachant que l'une des caractéristiques par rapport aux autres élections, c'est qu'on a des indécis, c'est vrai, on en a toujours eu beaucoup, mais cette fois-ci, ils se décident extrêmement tard, jusqu'au dernier moment, et il y a un renouvellement des stocks, c'est-à-dire que les électeurs qui n'étaient pas indécis il y a un mois le deviennent. Et donc ça, pour le coup, ça crée en effet une vraie incertitude.
William, vous êtes allé à la rencontre de ces indécis. Qui sont-ils ?
On en parlait, il y a plusieurs blocs. Benjamin Morel vient de le dire. Un bloc majeur qui se situe à gauche, où on fait, il faut le dire, du calcul. Où parfois, on se demande s'il faut aller voter par conviction, par choix, pour le candidat qu'on a vraiment choisi. Mais
il y a quelqu'un qui nous disait tout à l'heure, il y a le vote utile et très utile.
Ouais, c'est ça. Mais le candidat qu'on a choisi est peut-être très bas dans les sondages. Un cas typique, on voit que les électeurs aujourd'hui potentiel d'Anne Hidalgo, de Fabien Roussel, de Yannick Jadot, ils se posent des questions et se disent « Mais est-ce qu'il ne faudrait pas voter utile à gauche, entre guillemets, et directement se pencher sur le cas de Jean-Luc Mélenchon ?» C'est le cas de Léa que j'ai rencontrée hier dans les rues de Paris. Alors elle était quasi même une déçue de Christiane Taubira, qu'elle espérait encore candidate. Elle se pose des questions. Est-ce que là aussi, il faut faire des calculs ? Elle est dans cette indécision.
Le personnage de Mélenchon ne me plaît pas du tout. Et en même temps, il a un programme... réfléchi et bien construit, qui est celui qui correspond le plus à mes valeurs. Voilà, donc j'ai pas envie de refaire du Macron, en tout cas je valide pas ce qui s'est passé les dernières années, donc on est en train d'y réfléchir, donc voilà, je suis le cul entre deux chaises.
Mais ils savent ce qu'ils ne veulent pas, en fait. Pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils ne veulent pas.
Et surtout, ils se retrouvent dans une position qu'ils n'ont pas voulu, c'est-à-dire à faire... Normalement, on dit au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Et ben là, au deux tours, on élimine. Ou en tout cas, on fait trop de calculs, trop de tactiques, au goût de Loïc, notamment, qui résume assez bien cet état d'esprit des électeurs de gauche qui peuvent être un petit peu écœurés par la situation.
J'en veux énormément à la gauche de ne pas avoir joué le jeu et de nous demander à nous, de nous faire un peu du chantage. On se retrouve un peu en prise d'otage. À devoir, est-ce qu'on suit notre cœur mais en sachant que ça sert à rien ? Est-ce qu'on vote tactique ou alors vraiment extrêmement utile en votant directement Macron au premier tour, ce qui est quand même a priori loin des convictions pour beaucoup de gens, donc c'est pas agréable.
Voilà, c'est un électorat très mouvant. Quand on a demandé dans notre dernière enquête BVA pour RTL aux électeurs de gauche, est-ce que vous êtes sûr de voter pour le candidat que vous préférez, bien, c'est là qu'on trouve les indicateurs les plus faibles. Seuls 46% des gens qui disent voter Anne Hidalgo sont sûrs de leur choix. Seuls 63% des gens qui disent voter Fabien Roussel sont sûrs de leur choix. Donc oui, ça c'est une part d'électorat encore qui est très mouvante.
Donc 35% d'indécis parmi les électeurs sûrs d'aller voter. On a comparé les chiffres que nous donnait notre institut BVA en 2017, c'est à peu près les mêmes, et à 30 jours du scrutin, on était à 30%, on verra dans les heures qui viennent leurs derniers chiffres. Ce qui est sûr, Benjamin Morel, c'est que 15% des électeurs avaient fait leur choix le jour même du vote, c'est-à-dire quasiment dans l'isoloir. Ça, c'est énorme, non ?
C'est en effet important, c'est-à-dire que vous avez toujours une partie relativement substantielle de l'électorat qui fait un choix de dernière minute et qui se politise à la dernière minute. D'où l'intérêt des dernières dynamiques de campagne. Quand vous regardez ce qui s'est passé en 2017, l'un des électorats les plus incertains, les moins certains, c'était l'électorat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était en dynamique. Et parce qu'il était en dynamique, eh bien cet électorat a fait le choix de voter utile. Et au bout du compte, ça ne s'est pas du tout ressenti dans les urnes. Au contraire, en réalité, il est resté le premier avec un bon étiage. Donc si vous voulez, l'électeur le plus tardif est l'électeur le plus stratège en réalité. Donc celui qui est sensible à la situation politique à l'instant T, l'avant-veille de l'élection. Et c'est ce qui crée les dynamiques, c'est ce qui transforme profondément un certain nombre de candidatures. D'où les appels à vote utile que l'on voit aujourd'hui, et d'où la grande fluidité des derniers jours, des dernières semaines entre certains candidats qui justement parient sur cet effet de dynamique.
Merci beaucoup Benjamin Morel, merci à vous aussi William. Fin de la campagne officielle, on le rappelle, c'est demain à minuit. Et si vous aussi vous faites partie de ces indécis, de ceux qui risquent de prendre leur décision dimanche, eh bien appelez-nous 3210. Les électeurs ont la parole, vous le savez, c'est dès 13h. Une petite pause, on va parler justice. Un jour, une proposition. Qui propose quoi? C'est dans un instant, à tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud. RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Présidentielle 2022.
J-3.
À trois jours du premier tour de cette présidentielle, RTL Midi continue donc à passer en revue les programmes des candidats. Un jour, une proposition, et aujourd'hui on s'arrête sur la justice. C'est un sujet qui nous concerne tous, hein, divorce, vol, surendettement. On peut tous être amenés à fréquenter un jour un tribunal. Il y a quelques mois, vous en souvenez sans doute, les magistrats lançaient un SOS pour exprimer leur malaise, leur épuisement, appel signé. Et c'était historique par deux tiers de la profession. Depuis, il faut bien reconnaître qu'on a peu évoqué ce sujet dans la campagne. Alors qui propose quoi? C'est vous, Cindy Hubert, qui vous êtes penchée sur la question. Bonjour Cindy.
Bonjour.
Première piste, plus de moyens sur la table.
Oui, la justice n'a jamais été un sujet très vendeur en campagne, mais cette année, ce cri d'alarme des juges a changé la donne. Les candidats n'ont pas pu faire comme si de rien n'était. Tout le monde est donc d'accord sur un constat, la justice est à bout de souffle, et tout le monde est d'accord sur la nécessité de recruter. Et c'est là que la bataille des chiffres commence. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est le plus ambitieux. Il envisage de créer 13 000 postes de magistrats, 20 000 greffiers, 5000 conseillers d'insertion et de probation. Marine Le Pen, elle, promet de doubler le nombre de magistrats, mais en recrutant une part importante hors concours. Nous ne voulons plus d'une justice qui chronomètre et comptabilise tout. Ça, c'était les mots forts du SOS des magistrats. Anne Hidalgo les reprend à son compte.
Il y aura une loi de programmation quinquennale adoptée dans les premiers mois du mandat afin de lancer un plan de recrutement de magistrats, de greffiers, mais aussi de travailleurs sociaux. Nous pourrons améliorer ce qui nous est demandé par nos concitoyens, la justice du quotidien.
Valérie Pécresse, elle parle de plan hors sec pour la justice. Elle prévoit une hausse de 50% du budget des tribunaux en 5 ans pour le porter à 9 milliards par an.
Alors ça, c'est pour les chiffres. Sur le fond, en matière de politique pénale, là, le clivage droite-gauche est assez clair.
Absolument. À gauche, une ligne directrice. Il faut éviter le tout carcéral, éviter la récidive. Et cela passe notamment par des peines alternatives. Fabien Roussel souhaite transformer les peines de prison de courte durée en travaux d'intérêt général. Emmanuel Macron souhaite des amendes forfaitaires pour les délits qui empoisonnent le quotidien. Les candidats mettent aussi l'accent sur la justice de tous les jours. Jean-Luc Mélenchon entend ainsi garantir la gratuité des procédures les plus courantes, comme le divorce. De l'autre côté de l'échiquier politique, sans grande surprise, c'est la course à la fermeté. Le Pen, Zemmour, Pécresse plaident tous pour un rétablissement des peines planchers. C'est-à-dire, vous savez, ces peines minimales appliquées automatiquement, quel que soit le parcours de l'individu. Tous les trois préconisent aussi de supprimer ou de réduire les aménagements de peine pour les criminels les plus dangereux. Éric Zemmour, lui, veut rétablir la perpétuité réelle.
Je vous l'ai dit, certains crimes méritent la prison à vie. Comment imaginer que Salah Abdeslam, un des terroristes du Bataclan, complice du massacre de 138 de nos enfants, puisse sortir un jour de prison?
Alors sachez tout de même que la perpétuité réelle existe déjà en réalité par le biais de ce qu'on appelle aujourd'hui une période de sûreté illimitée. La justice peut la prononcer pour les tueurs d'enfants quand le meurtre a été accompagné de viol ou de torture. Et puis, depuis récemment, depuis 2016, les terroristes aussi risquent la prison à vie.
Bon, tout cela pose quand même une question, Cindy. On les installe où, ces détenus?
Alors la question en plus est brûlante puisque la barre des 70 000 détenus vient de nouveau d'être franchie pour 60 000 places. Alors, à droite et à l'extrême droite, on promet d'accélérer le tempo. Marine Le Pen veut 25 000 places. Qui dit mieux? Valérie Pécresse, un peu moins, 20 000. La candidate LR sait que les prisons mettent souvent plusieurs années à sortir de terre. Alors, en attendant, elle a une proposition étonnante, en tout cas d'un point de vue juridique.
Eh bien, on va ouvrir des centres de détention provisoires dans des bâtiments désaffectés avec l'aide de la pénitentiaire. Et dans ces centres de détention provisoires, on mettra des délinquants, des primo-condamnés, des courtes peines sous bracelet électronique.
Dans la foire aux idées, Nicolas Dupont-Aignan lui propose carrément d'ouvrir un bagne pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme.
Non, moi, j'ai proposé que les djihadistes aillent au Kerguelen, dans un bagne. Et je maintiens. Ça suffit. On a mis des djihadistes dangereux au milieu des autres prisonniers et on libère des djihadistes chaque année, une prison éloignée. Et puis assez, assez. Vous savez pourquoi les Français, on revient toujours à la question du vote. Est-ce que la politique sert à quelque chose? Est-ce qu'à un moment, on prend les problèmes à bras-le-corps?
Que faire des terroristes qui sortent de prison? Le débat sera sans aucun doute au cœur également des législatives, alors que le verdict des attentats du procès des 13 novembre est attendu en juin.
Dernier point, Cindy, les programmes des candidats ne font pas l'impasse, bien sûr, sur un vieux serpent de mer, l'indépendance du parquet.
Ah oui, l'indépendance du parquet revient dans les programmes de Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et d'Anne Hidalgo, avec cet objectif louable, mettre fin à toute ingérence du pouvoir politique dans les affaires judiciaires.
Merci beaucoup, Cindy, pour ce décret. Je vous rappelle que l'intégralité des programmes de chacun des candidats est à retrouver sur notre site rtl.fr. Toute l'actualité aussi, bien sûr, de cette présidentielle. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Vous avez la parole sur RTL. À tout de suite. RTL.